Chapitre 3e. Le galop auquel Berthe s'abandonnait l'entraînait vers un bouquet de noyers qui couvrait de leur ombre noire le centre du plateau. Le cheval, effarouché par la nuit qui prête au buisson des formes fantastiques, irrité par la résistance de la main habile qui le gouvernait, se défendait violemment, s'enlevait des quatre pieds et se jetait de côté pour une feuille que le vent faisait tourbillonner entre ses jambes. Cette lutte et ce mouvement qui fouettait le sang vif de la jeune fille lui plaisaient. Monsieur de Gaillefontaine, qui la savait habiller cuillère, la laissait courir. Berthe allait passer devant le bouquet de noyers lorsque son cheval fit un écart si prodigieux qu'il fallut tout l'art et toute la souplesse de mademoiselle de Gaillefontaine pour n'en être pas désarçonnée. Elle maintint son cheval, qui voulait se précipiter de côté, le contraignit à rester en place et regarda du côté des arbres. Sur la lisière de l'ombre épaisse qu'il versait sur le plateau, un homme était debout, les deux mains appuyées sur le canon de son fusil. Berthe le reconnut et tressaillit. C'était Jean. Le grand chien roux, couché au pied de son maître, aboyait doucement, le museau entre ses pattes. Berthe ramena le cheval du côté de Jean. « Que faites-vous donc là à cette heure ? » dit-elle en s'efforçant d'assurer sa voix. « Moi, répondit Jean, je vous attendais pour vous voir passer, vous et monsieur de Puiseux. » Berthe regarda en face le chasseur, qui avait fait deux ou trois pas en dehors de l'ombre. Il était pâle comme un mort. Quand il tourna la tête du côté d'où venaient le père et le fiancé de mademoiselle de Gaillefontaine, son regard prit une expression de douleur si poignante et si terrible à la fois que Berthe poussa résolument son cheval vers lui. « Jean, lui dit-elle, penché sur le cou de sa monture, il faut que je vous parle. Soyez demain à midi au Préaux-Nain. J'y serai, dit Jean. Mademoiselle de Gaillefontaine lâcha la bride à son cheval qui disparut dans la nuit. Jean et son chien rentrèrent sous le couvert des noyers. Monsieur de Gaillefontaine passa avec monsieur de Puiseux. Leurs valets les suivirent sur le plateau et tout retomba dans le silence. Une heure après cet entretien, un homme arriva sous les murs de la ferme. Le souper était fini. Tous les laboureurs s'étaient retirés et endormis. Quand il fut proche de la porte extérieure, Jean, car c'était lui, se retourna et demeura quelques instants immobile, les yeux fixés sur les points lumineux qui indiquaient le château de Rocheblanche. Puis il s'introduisit dans la cour, gagna une grange, s'étendit sur des bottes de paille et s'endormit. Le grand chien roux se coucha au pied de son maître et l'imita. Vis-à-vis de cette grange, derrière une fenêtre tendue de rideaux blancs, brillait une lampe posée devant une grossière image de la Vierge au pied de laquelle une paysanne priait à genoux. C'était Clairette qui priait pour Jean. Clairette était une de ces naïves et joyeuses créatures qui portent le contentement avec elles. Active, vigilante, bonne à tous, elle se réveillait avec l'alouette et l'on entendait sa voix rire et gazouiller aussitôt l'aube venue. Chez une personne de ce naturel, la tristesse faisait une impression d'autant plus forte qu'elle était plus rare. On ne pouvait voir, sans en être affligé, la pâleur s'étendre sur des joues qui avaient le coloris de la pêche et le chagrin assombrir des yeux si gais. Dans les moments où la mélancolie la prenait, Clairette enfonçait ses petites mains dans les poches de son tablier, baissait le nez et les pieds dans ses sabots, s'en allait rôder le long des haies comme une mésange qui a perdu ses petits. « Qu'as-tu, Clairette ?» lui demandaient les jeunes gens de la ferme qui passaient par là. Clairette poussait un grand soupir et ne répondait rien. Le plus souvent, son malheur venait de ce que Jean ne l'avait pas embrassé à son retour de la chasse. Dans la soirée, après qu'elle eut appris le prochain mariage de mademoiselle de Gaillefontaine, Clairette s'était sentie prise d'un grand trouble où le dépit entrait pour quelque chose. Il lui semblait qu'elle était aussi en âge d'être pourvue, qu'après tout elle avait 17 ans, que chacun s'accordait à la trouver jolie, et qu'il fallait que Jean eût le goût bien mauvais pour ne s'en être pas aperçu. Du dépit, elle arriva à la colère, plongea ses mains au fond de ses poches, et les sourcils froncés comme une reine de tragédie, courut se regarder à un morceau de glace qu'une lampe oubliée éclairait dans un coin. La vue de son visage la fit sourire. En souriant, elle montra au miroir une double rangée de dents qui avait l'éclat de l'émail. Cette découverte acheva de la décider. Elle lissa ses cheveux châtains du bout de ses doigts, ajusta son mouchoir de cou, noua d'une façon plus coquette son petit bavolet et descendit dans la cour très décidé à se marier. Le fermier se promenait à l'écart et se trouvait seul. Un grand feu brûlait dans la cuisine et faisait bouillir une marmite énorme où le dîner de la ferme achevait de cuire. Les laboureurs assis autour de l'âtre attendaient que le couvert fût mis. La cour dans laquelle Pierre Guillard allait et venait était éclairée en partie par le reflet de ce grand feu de broussailles et de sarments qui flambait. Pierre n'avait point l'air de penser au souper, et l'on voyait sa noire silhouette qui tantôt se plongeait dans l'obscurité et tantôt apparaissait dans la zone de lumière. Clairette courut de son côté, se planta bravement devant lui, et le front haut, bien ferme sur ses petits pieds, rouge comme une pomme d'api, et les joues creusées par une fossette qui dessinait un sourire imperceptible, elle arrêta le fermier. « Regardez-moi, » lui dit-elle brusquement. « Qu'ai-je besoin de te regarder? Est-ce que je ne te vois pas ?» répondit le fermier, que la pantomime de Clairette étonnait un peu. « C'est égal, regardez toujours, » reprit la fillette. « Bien, après. Comment me trouvez-vous, monsieur Pierre ?»«
Jolie comme la plus jolie fille du pays. » On peut te le dire à toi, parce que tu n'es pas coquette, comme tant d'autres qui cherchent à embobiner les garçons.
Alors, vous trouvez aussi qu'on ne serait pas trop malheureux de m'épouser ? Reprit Clairette, qui restait toujours campée devant le fermier avec la mine déterminée d'un jeune coq.
Malheureux ? Mais si j'avais 20 ans, je ne voudrais pas d'autre femme que toi. Tu es honnête.
Ça, c'est vrai. Tu as un bon cœur.
Trop bon. On se mettrait au feu pour des ingrats qui n'y prennent seulement pas garde.
Tu es active et tu travailles de tes 10 doigts comme une fée.
Puisque vous pensez tout cela de moi, si je voulais devenir votre bru, vous y consentiriez volontiers.
Tu sais bien que ça a toujours été mon souhait, petite rusée.
Eh bien, donc, dépêchez-vous de le dire à Jean de m'épouser.
Le fermier hocha la tête.
Est-ce que vous croyez qu'il s'y refusera ?
Reprit Clairette précipitamment.
Je ne dis pas cela, mais...
Mais vous n'êtes pas bien sûr qu'il accepte.
Il ne serait pourtant pas si à plaindre.
Ah, s'il voulait m'écouter.
Après ça, ça le regarde,
ajouta Clairette d'un air mutin.
D'autres ne feront pas les dédaigneux. S'il me refuse, eh bien, j'épouserai Claude.
Claude est un honnête garçon, et tu ne seras pas mal avec lui.
Il faut que ça finisse, voyez-vous, maître Pierre. Voilà qui est décidé. Ainsi, vous parlerez à Jean,
je te le promets. Clairette sauta au cou du fermier, l'embrassa sur les 2 joues et rejoignit les laboureurs en chantant. Le lendemain, au point du jour, la première personne que Jean rencontra en quittant la grange, ce fut Clairette qui trottait par la cour entourée d'une population inquiète de poules et de poussins. L'étonnement, la joie peut-être aussi, firent tomber des mains de la fermière le tablier qui contenait l'orge et le mil. La provende se répandit par terre et Clairette, laissant la coque, poule et poussins, courut dans la chambre où maître Pierre achevait de passer sa blouse de grosse toile.
« Eh, monsieur Pierre, » dit-elle en entrebâillant la porte,
« il est là. »«
Qui ? Mais Jean, qui voulez-vous que ce soit ?»«
Tu lui as parlé ?»«
Non pas, ça vous regarde, je l'ai vu. »«
C'est bon, j'y vais. »«
Hâtez-vous, le voilà qui siffle son chien. »« Si vous lui laissez gagner les bois, on ne le reverra plus. »
Pierre prit son grand chapeau et descendit. Au moment où il parut dans la cour, Jean en passait la porte. Le fermier l'appela.
« Laisse les perdreaux tranquilles pour ce matin, » lui dit-il. « J'ai à te parler. »«
Je vous écoute, mon père. »
Le fermier prit le chasseur par le bras et le conduisit au bord de la forêt.
« Jean, » dit-il au chasseur,
« tu es en âge de te marier.
Au tien, j'étais père déjà. As-tu pensé à t'établir ? » ?»«
Non, mon père, jamais. » »«
Alors il faut bien que j'y pense pour toi. »
La femme qu'il te faut, je l'ai trouvée.
Je vous remercie, mon père. Mais en la cherchant, avez-vous pensé à vous ou à moi ?
L'amertume de cette réponse n'échappa point au fermier.
J'ai pensé à un honnête garçon que Dieu a créé pour qu'une jeune famille se groupât autour de lui. Si tu as des chagrins, ta femme les partagera, et elle les adoucira en les partageant.
Jean secoua la tête.
Non, mon père, c'est impossible.
La femme que je te destine, reprit le fermier, est bonne, soigneuse, excellente ménagère, active et vigilante en toutes choses.
« Ne me la nommez pas !»
s'écria Jean. « Ce serait inutile, j'ai vécu seul, je vivrai seul. »«
Prends garde, Jean. Tu es dédaigneux parce que tu es jeune, mais la vieillesse viendra. »«
Peut-être. » Le père regarda son fils tristement. « Je ne sais quelles pensées tu nourris, mais ce ne sont pas celles d'un fermier, » reprit-il. « Pourquoi nous fuis-tu sans cesse? Que te manque-t-il? Quelle compagnie vas-tu chercher dans les bois où tu passes tes jours? Une charrue va mieux qu'un fusil aux mains d'un laboureur. Crois-moi, Jean, tu en viendras à regretter ce que tu refuses aujourd'hui. La jeunesse s'en va et la solitude arrive. Tu comprendras alors que des enfants sont les seules choses qui retiennent à la vie. Je ne cherche pas à te donner une femme pour ton bonheur présent, mais bien pour te créer des obligations et des devoirs envers des personnes qui tireront tout de toi. Il vient un temps où le travail égaye et où l'on pense avec bonheur aux charges qui pèsent sur nous. Clairette, et tu l'avais deviné avant moi que je te l'eusse nommée, a le cœur dans les yeux, l'on y lit tout ce qu'elle pense. Elle s'appliquera de toutes ses forces à rendre son mari heureux. Et comment n'y arriverait-elle pas? Peut-on rien lui souhaiter qu'elle n'ait déjà? Rien. Épouse-la donc, Jean. Si tu t'obstines à rester seule, l'ennui te prendra, et l'ennui est mauvais conseiller. Écoutez, père, répondit Jean, qui n'avait pas interrompu le fermier aussi longtemps que celui-ci avait parlé. Je voudrais vous obéir, mais je sens bien que je ne le pourrai pas. J'aime Clairette comme un frère, mais cette amitié ne va pas au-delà. Je prétends aimer ma femme autrement. J'ai commencé par avoir des livres entre les mains, et c'est un mauvais commencement pour quelqu'un qui doit plus tard conduire une charrue. J'ai plus de douleur en sentant ce que je suis que vous n'en avez en le voyant. Mais qui puis-je à présent? Clairette, avec toutes ses qualités, empoisonnerait ma vie. On me tourmente de tous côtés pour prendre un état. Vous me montrez la charrue, un autre me montre le marteau. Voulez-vous que je vous le dise, mon père? Je n'ai pas été élevé pour cela. J'aurai toujours bien de quoi acheter de la poudre et du plomb. J'ai un fusil, avec cela, on ne manque jamais de rien. Si la tristesse vient, eh bien, j'en ferai la compagne de ma vie. Au moins serai-je seul, malheureux. Si je me mariais, nous serions deux, peut-être trois. Mon isolement à moi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la prudence. » Le père inclina son front ridé. « Que la volonté de Dieu soit faite, » dit-il, et il s'éloigna. Du plus loin qu'elle l'aperçut, Clairette, qui attendait au coin de la ferme, comptant les minutes et sourde à tous les appels, courut à lui. Pierre agita sa tête en signe de refus. Clairette s'arrêta court. Des larmes lui vinrent aux yeux. Elle les laissa couler un instant en silence, puis, les essuyant avec le coin de son tablier, « Eh bien, » dit-elle d'un air résolu, « j'épouserai Claude. » Aussitôt que le père et le fils se furent séparés, Jean marcha rapidement du côté du pré aux nains.